Le nouveau Benoît. Il faisait allusion à une certaine chose, mais sans le savoir, ou peut-être le savait-il, il a fait allusion au sujet, au thème de ce message, du message de ce matin. Ce n'est pas un thème, ce n'est pas un sujet original en soi, mais ô combien important, ô combien primordial pour chacun d'entre nous. Sommes-nous des êtres nouveaux? On va prier ensemble et puis on lira trois textes pour introduire la réflexion de ce matin. Ô Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour et ta grâce, pour cette liberté que nous avons de pouvoir venir dans ta présence ce matin pour venir te présenter bien faiblement et avec toutes les limites qui peuvent encore nous caractériser, te présenter nos louanges, nos actions de grâce pour tout ce que tu as réalisé dans ton plan merveilleux de salut pour l'humanité et pour tout ce que tu continues à réaliser dans chacune de nos vies chaque jour. Nous voulons t'adorer, te bénir en te demandant, Seigneur, que ta parole, eh bien, ait un impact dans nos vies, si elle n'en a déjà eu un, et Seigneur, qu'elle continue à en avoir, parce que ta parole est vérité et vie. Elle est là pour nous transformer, pour nous façonner, comme il nous l'a été rappelé aussi à travers nos prières. Béni sois-tu, sois adoré, Seigneur, et agis en chacun d'entre nous par ton Esprit Saint, nous te le demandons. Et nous t'adressons cette prière au nom de Jésus. Amen. On va lire dans le livre du prophète Ézéchiel, un premier texte. Ézéchiel, le chapitre 36, versets 25 à 27. Et là, le prophète dit ceci. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous ne suiviez, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et je vous purifierai. Premier texte. Deuxième texte, un texte ultra connu, bien connu, dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et probablement que Jésus fait allusion à ce texte d'Ézéchiel que nous avons lu. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, donc il s'adresse à Nicodème comme nous le savons très bien, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et puis on fait un bond et on lit le verset 5. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et enfin, un dernier texte dans l'épître, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle créature, nouvelle création. Comme vous le savez bien, dans le monde des insectes, beaucoup d'entre eux ont deux vies en quelque sorte. Si on prend le papillon, avant d'être cet être aérien, splendide, coloré, butinant de fleur en fleur, eh bien, c'est une chenille, un nuisible, qui prend plaisir à ronger, à grignoter les feuilles de nos bons légumes. Si on prend l'autre exemple de la libellule, avant d'être ce petit hélicoptère aux couleurs métalliques, léger, splendide, voltigeant autour des mares, eh bien c'est une larve repoussante. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu une. C'est laid. Ça vit dans la vase, dans la boue des mares, des étangs. Rien à voir avec l'être aérien qu'il devient par la suite. Et c'est ainsi pour beaucoup d'insectes. Ils passent par deux naissances, en quelque sorte. Ils sortent de l'œuf, première naissance, et puis ils sortent de leur enveloppe, de leur cocon, deuxième naissance. La Bible dit aussi que l'homme doit passer par deux naissances. La première naissance, comme nous le savons évidemment bien, cette naissance physique qui fait que l'être humain, chaque être humain, sort du ventre de sa mère, sort du sein maternel, et puis il y a aussi cette deuxième naissance par laquelle chaque être humain devrait également passer, c'est la naissance spirituelle. Et malheureusement, tous ne passent pas par cette deuxième naissance spirituelle, alors qu'elle est indispensable pour pouvoir être au bénéfice du salut éternel de Dieu, cette deuxième naissance. Un petit rappel, comme vous le savez, l'homme a été, et la femme ont été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence, ils ont une volonté, ils ont des sentiments, et ils ont été créés, l'être humain a été créé avec une éthique parfaite à l'image de Dieu, et il a été créé pour vivre éternellement. Seulement, comme nous le savons aussi, la Bible atteste que la séduction, la convoitise, que la désobéissance ont introduit le mal sur la terre et dans le cœur de l'homme. Le mal, ou bien ce que la Bible appelle le péché, qui a conduit à la maladie, à la souffrance morale, physique, aux émotions négatives et finalement à la mort. Heureusement cependant, comme nous l'avons rappelé à travers ce culte, Dieu, dans sa grâce infinie, a établi un plan de salut pour sauver l'humanité. Dieu, tellement il nous aime, tellement il aime sa créature, tellement il aime sa création, tellement il aime son chef-d'œuvre, Dieu a voulu établir un plan merveilleux de salut pour restaurer cette image altérée, brisée de lui-même, de Dieu, en l'homme, d'une part, et pour lui rendre la vie éternelle qu'il avait reçue initialement dans le jardin d'Éden. Ce plan de salut, il a été opéré par une personne. Dieu fait homme, Jésus-Christ, l'incarnation divine. Le mystère, ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation divine. Ézéchiel chapitre 18 verset 20 dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra, et c'est notre triste et sombre, malheureusement, rétribution à cause du péché. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais, ô merveilleuse grâce de Dieu, Jésus est mort à notre place. Jésus, sur la croix, a subi la mort qui nous était destinée, afin que nous puissions retrouver la vie perdue, afin que nous puissions être libérés du péché et de ses conséquences, et afin aussi que, la justice d'un Dieu juste et trois fois saint soit pleinement satisfaite. Dès lors, comme le souligne l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 22, « Si tous meurent en Adam, tous ont aussi cette possibilité de revivre en Christ. » Adam a introduit la mort, Jésus-Christ Le deuxième Adam, le second Adam, a apporté la vie. C'est important de rappeler toutes ces vérités, tous ces versets. C'est connu. En principe, ce sont des versets élémentaires, mais ô combien indispensables, ô combien importants pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous. Le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, verset 23. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils à la vie, nous dit 1 Jean 5, versets 11 et 12. Celui qui a le Fils à la vie, et celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Jésus a dit, tu l'as rappelé dans ta prière tout à l'heure, je suis la résurrection, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La vie ne se trouve nulle part ailleurs que dans la personne de Jésus et Jésus seul. Jésus est la vie, Jésus donne la vie. Ce ne sont pas mes bonnes œuvres, ce ne sont pas mes bonnes actions qui vont me faire mériter la vie de Dieu. L'apôtre Paul, encore lui, dans Éphésiens 2, 8, 9, l'atteste, l'affirme, il le dit clairement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don, le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Les œuvres, les bonnes actions, ne peuvent nous faire mériter la vie de Dieu. Les œuvres sans la grâce, c'est un petit peu comme si on habillait un cadavre avec des vêtements scintillants. C'est souvent ce qu'on fait quand on va voir dans un funérarium un être qu'on a connu et qui est décédé. On le farde, on lui donne un aspect de vie, mais ça ne lui rend pas la vie. Il est mort. Et c'est la même chose. Les bonnes œuvres, eh bien, elles sont en quelque sorte comme un vêtement scintillant qu'on place sur un mort. La Bible dit que je peux être vivant, respirer, faire plein d'activités, être en bonne santé et pourtant être mort devant Dieu, aux yeux de Dieu, être mort pour Dieu. Au cimetière, il y a plein de personnes qui sont enterrées, qui sont mortes et enterrées, et pourtant qui sont vivantes. Pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu des vivants et non pas des morts. L'apôtre Paul, tout au long de ses épîtres, nous enseigne que il est mort à sa vie passée, il est mort à sa vie de péché, il est une nouvelle créature, et ce qu'il vit en Christ est une nouvelle vie. Il est né de nouveau. Donc on peut très bien être vivant et mort aux yeux de Dieu, comme on peut aussi très bien être mort à notre vie de péché et pourtant être vivant pour Dieu. Et c'est là l'essentiel. C'est là l'essentiel. Alors, pour être au bénéfice de cette vie de Dieu, quelle est la part de l'homme et quelle est la part de Dieu? Pour être au bénéfice de cette vie nouvelle, de cette vie spirituelle, quelle est la part de l'homme et quelle est la part de Dieu? Bien, la part de l'homme, finalement, c'est qu'il se convertisse. Et la part de Dieu, c'est d'opérer en nous la nouvelle naissance. Il y a quelqu'un qui a dit que la conversion est notre oui à Dieu et la nouvelle naissance est le oui que Dieu nous accorde, que Dieu nous attribue. La conversion, ce changement de direction, ce volte-face, pour prendre un exemple simple, j'ai envie de me diriger dans la ville d'Arlon, d'aller à Arlon. Et puis je prends la direction totalement opposée pour me rendre à Ostende. Bien, dès que je me serai aperçu que j'ai fait fausse route, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter la mauvaise direction, la mauvaise voie, le mauvais chemin, et je vais m'orienter vers le bon chemin. Je vais tourner le dos à la mauvaise route, à la mauvaise direction, pour m'orienter dans la bonne direction. C'est ça la conversion. Finalement, c'est se rendre compte à un certain moment donné dans notre vie que le chemin que j'ai emprunté est une voie sans issue, que je suis en contradiction avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec ce qu'il attend de moi. Je confesse ma faute, je saisis son pardon par la foi, et puis je tourne le dos à ma faute, à mon péché, à la mauvaise voie pour me diriger dans le chemin que Dieu a tracé pour moi, dans le chemin de la vie. Et c'est cela la conversion. Un autre exemple, Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens dans sa première épître au chapitre 1er, verset 9, écrit « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant le chemin des idoles pour servir le Dieu vivant. » C'est cela la conversion. Finalement, c'est la part de l'homme. La part qui incombe à l'homme, c'est de tourner le dos à sa vie passée, à son péché, et de se tourner vers le Dieu vivant. La conversion, la part de l'homme. Mais malheureusement, la part de l'homme, la conversion, le demi-tour, est incomplet, est insuffisant pour que l'homme puisse bénéficier de ce salut éternel. Il faut que Dieu complète cette démarche de l'homme par une autre démarche qui lui incombe. Et ce qu'il accorde aux hommes, à l'être humain qui passe par la conversion, c'est ce que la Bible appelle tout simplement la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et là, de ce côté, l'homme n'y est absolument pour rien. Pas plus que le bébé qui naît n'y est pour quelque chose dans sa naissance. Il naît, c'est un fait, c'est la maman qui lui donne la vie par des souffrances qu'elle rencontre, qu'elle connaît, comme Jésus-Christ, par les souffrances qu'il a rencontrées, permet à Dieu d'opérer en nous la nouvelle naissance. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, dit Jésus à Nicodème. Et un petit peu plus loin, comme nous l'avons lu, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est donc Dieu qui l'opère en nous. Et plus précisément, le texte, Jésus, dans ses paroles, dit que la nouvelle naissance est opérée par l'eau et par l'esprit. Alors on peut se poser la question, mais quelle est cette eau dont Jésus parle dans l'évangile de Jean, chapitre 3? Beaucoup ont pensé que cette eau faisait allusion au baptême. Beaucoup de chrétiens pensent que cette eau fait allusion au baptême. Mais comme nous le savons, les eaux du baptême ne nous sauvent pas. Les eaux du baptême n'apportent pas ou ne génèrent pas la nouvelle naissance. Elles sont simplement un symbole qui illustre notre nouvelle naissance. Le baptême d'eau, ici en l'occurrence, est finalement le signe extérieur d'une transformation intérieure. Le signe visible d'une transformation invisible. La nouvelle naissance est une naissance intérieure, une naissance spirituelle. L'eau du baptême ne sauve pas, n'apporte pas la nouvelle naissance. Donc l'eau dont il est question ici, mais de quelle eau s'agit-il? Certains ont pensé que l'eau dont il s'agissait dans ce verset 3 du chapitre 3 de l'évangile de Jean, en rapport avec le contexte presque immédiat de Jean 7, verset 38, si je me souviens bien, certains ont pensé que l'eau était le symbole du Saint-Esprit. Et c'est vrai que parfois l'eau est symbole du Saint-Esprit. Lorsque Jésus parle dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 38, comme je viens de citer la référence, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Et puis, l'apôtre Jean précise, Il disait cela de l'esprit qu'il devait recevoir. Donc l'eau des fleuves d'eau vive, dans le contexte du chapitre 7, c'est bien en rapport avec l'esprit de Dieu. Mais si tel était le cas dans Jean au chapitre 3, verset 3 que nous venons de lire, si l'eau représente effectivement l'esprit, Jésus utilise en quelque sorte une forme de pléonasme, de répétition. Et on pourrait faire cette lecture, si tu ne nais, ou si un homme ne naît d'esprit et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ou mieux, au mieux, si un homme ne naît de l'eau de l'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est possible. Mais il y a une autre interprétation qui est généralement, acceptée dans les milieux évangéliques et qui est plus courante, c'est de considérer, d'accepter, de reconnaître que l'eau dont Jésus parle ici est le symbole des Saintes Écritures. Et la lecture que nous devrions faire alors serait la suivante. Si un homme ne naît de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et tout s'éclaire lorsque nous faisons correspondre d'autres versets en rapport avec ce verset, notamment 1 Pierre chapitre 1er verset 23, qui souligne le rôle de la parole de Dieu dans notre régénération, et qui dit, puisque vous, ou l'apôtre écrit ceci, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre, ici, nous montre clairement que la régénération est opérée par la parole vivante et permanente de Dieu, les Saintes Écritures. Et puis, il y a cet autre verset que nous trouvons dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, verset 18, où nous lisons ceci. Il, Dieu, nous a engendrés, donc nous a fait naître, sur le plan spirituel, selon sa volonté, par la parole de vérité, par les Saintes Écritures. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont les deux agents qui peuvent nous faire entrer dans la sphère spirituelle et nous faire naître de nouveau. Cependant, la nouvelle naissance n'est pas un objectif abouti en soi. C'est un point de départ. C'est une première étape, c'est un premier stade, tout comme la naissance physique pour un nourrisson n'est qu'une première étape avant qu'il ne connaisse une évolution croissante durant sa vie. On ne peut pas imaginer un bébé de quelques jours, qu'un bébé de quelques jours commence à enjamber son berceau et à courir partout. La marche est un long et lent apprentissage. Il va devoir apprendre à se tenir en station debout, et puis il va marcher avec l'aide de ses parents, en tenant la main, et puis de façon maladroite, il va marcher en titubant, et il n'a plus que du lait. Et puis il va tomber, il va se relever, et puis seulement il va commencer à courir partout. On ne peut pas non plus imaginer qu'un bébé de quelques jours commence à ouvrir le tiroir, à prendre la cuillère pour ouvrir un pot de panade et le manger tout seul. Là aussi, c'est un apprentissage long et lent. On ne peut pas non plus imaginer que la petite fille à moins qu'elle soit extraordinaire, que la petite fille d'Adrien et de Peggy commence à s'adresser à son papa et à entamer une conversation avec lui. Et tu sais, papa, ça fait deux heures que tu as mis mon linge, mais il commence à devenir lourd. Ça serait peut-être bien de penser à le changer. Hein? Ça serait extraordinaire. Mais non. Le langage est un apprentissage long Et là, eh bien, dans la vie chrétienne, dans la nouvelle naissance, c'est pareil. C'est tout simple. La nouvelle naissance est un point de départ, un stade de, un point de départ, un premier stade évolutif, mais qui précède bien d'autres stades évolutifs. Tout au long de notre vie spirituelle, eh bien, nous apprenons à vivre pour plaire à Dieu, à vivre à la gloire de Dieu. Là où ça poserait problème, là où il y aurait lieu de se poser quelques questions, c'est si après 10 ans ou 15 ans, un enfant avait toujours le comportement d'un nourrisson. Imaginons un enfant de 10 ans qui continue à boire le lait, le biberon. Ou imaginons un enfant de 10 ans ou de 15 ans émettant quelques sons ou quelques cris puérils comme un bébé. Là, il y aurait lieu de se poser des questions, évidemment. Mais sur le plan spirituel, malheureusement, c'est la même chose. Dans le cadre de la nouvelle naissance, malheureusement, c'est la même chose aussi. Certaines personnes nées de nouveau n'ont pas ou peu évolué depuis le premier stade, celui de la nouvelle naissance. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que certains n'ont pas évolué ou peu évolué? Pourquoi? Eh bien, parce que certains, malheureusement, négligent ces deux éléments qui sont susceptibles de les faire progresser et qui les ont amenés à naître de nouveau. L'eau et l'Esprit Saint, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et en négligeant ces deux éléments, on se prive d'éléments essentiels pour notre croissance spirituelle. Sans ces éléments que sont l'eau et l'Esprit, on en reste à l'élémentaire. On va conclure. Il est impératif qu'on se pose cette question. Cette question vitale, fondamentale, indispensable. Est-ce que je suis né de nouveau? Suis-je passé par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance? Est-ce que je suis né d'eau et d'esprit? Si nous pouvons répondre par l'affirmative à cette question, gloire à Dieu. Mais posons-nous alors une autre question. Est-ce que l'eau et l'esprit apportent une transformation à mon être intérieur? Est-ce que je connais une progression dans ma nouvelle vie? Est-ce que j'ai connu une progression après ma nouvelle naissance? Est-ce que mes actions, est-ce que mes mauvaises habitudes sont transformés par l'eau et par l'esprit? Est-ce que mes pensées sont transformées par l'eau et par l'esprit? Est-ce que mes paroles sont transformées par l'eau et par l'esprit? Est-ce que mes sentiments sont transformés par l'eau et par l'esprit? Est-ce que mon caractère est transformé par l'eau et par l'esprit? Jésus dit à Nicodème, et nous terminerons par le rappel de ses paroles, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Alors que Dieu nous donne de pouvoir réfléchir à cette question, finalement, primordial et fondamental. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis un nouveau Benoît? Est-ce que je suis un nouveau Gino, etc.